Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le 20 janvier dernier, Joe Biden prenait ses fonctions à la Maison-Blanche dans un climat de forte tension intérieure. 100 jours après, un certain nombre de décisions prises ou annoncées, force est de constater que Joe Biden a rapidement soldé les comptes de Donald Trump en rejoignant l'Organisation mondiale de la santé, la Commission des droits de l'homme des Nations unies, l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique et en annonçant son intention d'en faire autant avec l'accord sur le nucléaire iranien. Négociations et dialogues non sans fermeté reviennent à l'honneur pour une diplomatie moins effacée et moins solitaire que sous Donald Trump et aussi moins naïve que sous Barack Obama. Regard sur la politique étrangère du président Biden avec nos invités par téléphone. Maud Kessar, maître de conférence des universités, directrice du domaine espace euro-atlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Alexandra de Hoopscheffer, politologue, directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Golu, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Mélandry, en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Azur, historien et professeur des universités et auteur de Le siècle américain, une histoire, paru aux éditions Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Après 100 jours de présidence Biden, ce qui saute aux yeux, c'est une certaine humilité, ce qui n'exclut pas la fermeté, comme on le verra avec la Russie, la Chine et l'Iran. Mais en tout cas, on ne voit pas de grand dessin à la Kissinger, pas de jeu d'échecs géopolitiques, pas de gendarme du monde, mais plutôt la défense des intérêts essentiels du pays et d'eux seuls. On sait qu'avec Joe Biden, politique intérieure et politique étrangère sont liées avec cette prise de conscience qu'une Amérique faible ou affaiblie par des années de guerre, on pense à l'Irak, à l'Afghanistan, ne peut prétendre à grand-chose. On voit une Amérique soucieuse de se réinventer à l'intérieur. Est-ce que c'est également vrai pour l'extérieur, Maud Kessar ?
Alors absolument, l'ambition réformatrice générale de Joe Biden qu'on observe en politique intérieure, c'est aussi une ambition qu'il porte pour la politique extérieure des États-Unis dans un contexte qui a été dénoncé par les compétiteurs stratégiques des États-Unis, celui du déclin, un vieux marronnier de la politique étrangère américaine. Donc face à ces prédicateurs du déclin, au premier rang desquels on trouve bien sûr les dirigeants chinois, l'administration Biden doit essayer de dépasser les schémas donc qui prévalaient d'une part au lendemain de la guerre froide et puis aussi peut-être ce très attendu dont on a affublé tout de suite donc le nouveau président des États-Unis, à savoir les orientations de politique étrangère qu'avait prise l'administration Obama. Je crois qu'après les 100 jours donc de présidence de Joe Biden à la tête des États-Unis, on peut dire que l'administration Biden en politique étrangère ne pourra pas opérer les mêmes choix que l'administration Obama. Elle place au cœur donc de cette politique étrangère une relation rénovée avec aussi bien les alliés du Pacifique que les alliés européens. Tout cela est-il suffisant pour surmonter en fait l'héritage immédiat des années Trump et ralentir la perception du déclin? C'est un véritable défi, car la diplomatie de Joe Biden est en compétition directe avec donc cette compétition de puissance qui avait été bien annoncée et marquée aussi par l'administration Trump et qui pose le cadre stratégique des relations des États-Unis avec la Russie d'une part et la Chine bien évidemment d'autre part, puisque aujourd'hui, pour l'administration Biden, il faut faire face aux nouveaux enjeux géopolitiques, mais aussi aux enjeux technologiques et cyber, qui sont bien à l'esprit et à l'agenda du nouveau président Biden.
Alors, Philippe Golub, il me semble qu'on assiste avec Joe Biden à une sorte de message mixte, inhabituel. D'un côté, puisque Maud Kessar parlait de la Chine, de la Russie, d'un côté, c'est peut-être une surprise, c'est maintien des sanctions. On le voit aussi avec la question iranienne, mais en même temps, maintien du dialogue. Tout cela est assez inhabituel et d'une certaine manière nouveau.
Écoutez, ce sur quoi je voudrais concentrer mon propos, c'est en fait sur la question chinoise, parce que c'est effectivement le cœur des relations internationales, de la politique mondiale dans les années et les décennies à venir d'ailleurs. Et c'est le problème central de la diplomatie américaine et de l'État américain actuellement. Mais ce n'est pas nouveau. Il y a une très grande continuité dans la politique internationale des États-Unis vis-à-vis de la Chine, du moins dans la perception du problème et du défi posé par la réémergence de la Chine comme très grande puissance économique et stratégique. Depuis le pivot annoncé par l'administration Obama en 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a une continuité dans l'estimation des élites de politique étrangère américaine et de sécurité sur le défi grandissant que constitue la Chine, qui est devenue trop riche, trop grande, trop puissante, trop vite, et qui aujourd'hui représente d'autant plus un défi pour les États-Unis que, contrairement à l'Union soviétique pendant la guerre froide, la Chine fait partie intégrante, une partie devenue centrale même, du capitalisme mondialisé. C'est-à-dire que contrairement à l'Union soviétique qui s'était mise en dehors et qui avait été mise en dehors de l'économie mondiale capitaliste, la Chine non seulement en fait partie, mais en fait partie de façon déterminante et de plus en plus déterminante de par les flux financiers, de par les investissements internationaux en Chine et de Chine à l'extérieur, de par les chaînes de production et de valeur internationalisées, transnationalisées des firmes transnationales aujourd'hui. Et donc le problème stratégique posé par la Chine aux États-Unis, en mer de Chine du Sud, en mer du Japon et ailleurs, est un problème qui rentre en contradiction avec les intérêts des acteurs privés transnationalisés du capital qui investissent de plus en plus fortement la Chine. Et on a vu, et je pense que c'est un élément absolument essentiel d'interprétation et d'analyse, au cours de toutes les années de Trump, alors que Trump essayait de déconstruire les chaînes de valeur et de production et était en train de tenter de découpler les économies technologiques américaines et chinoises, en même temps les flux financiers en direction de la Chine s'accentuent. Donc nous allons voir dans les années à venir une confrontation de plus en plus forte au niveau politico-stratégique qui rentrera en tension avec la nature des flux financiers internationaux. Et donc la question essentielle qui se pose pour Biden du point de vue intérieur-extérieur là, c'est comment aussi gérer le problème des liens, disons ça simplement, du capital américain avec la Chine. Et nous sommes là dans une question qui est extrêmement difficile pour l'État américain à régler.
Alors, on sent là aussi, finalement, le résultat de la politique assez naïve de la part d'Obama, en particulier sur la Chine. Sur la Chine, Alexandra Dubschefer, il n'y a pas rupture de la politique de Joe Biden avec celle de Donald Trump. On est sur la continuité, dans la fermeté. Et peut-être le seul sujet terrain d'entente possible entre Pékin et Washington, le climat.
Oui, alors c'est vrai que Biden, là aussi, essaye de tirer les leçons en fait de l'ère Obama, comme vous l'avez dit, à la fois dans la relation avec la Chine, mais on le voit aussi dans la relation avec la Russie ou la Turquie, par exemple. Il adopte une forme de diplomatie beaucoup plus frontale, beaucoup plus directe, beaucoup plus franche. Contrairement au président Obama, il ne cherche pas en fait à minimiser les désaccords, au contraire à les prendre en compte et à les mettre sur la table. Donc on a vraiment, on pourrait l'appeler une diplomatie de résultats, hein, que souhaite mettre en avant avant Biden et qui finalement converge assez bien avec l'approche européenne et française de la diplomatie, une diplomatie, un multilatéralisme qui produise des résultats qui puissent montrer une certaine efficacité. Et moi, j'ai vraiment trouvé que le sommet pour le climat, convié d'ailleurs par Joe Biden il y a quelques jours, allait vraiment dans ce sens-là, puisque par le leadership américain, le retour du leadership américain et son effet d'entraînement, il a réussi à convaincre des pays des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, à revoir à la hausse leurs objectifs. Et donc moi, ce qui me frappe, c'est que après 4 ans d'administration Trump, les États-Unis, on le voit, ont réussi à garder leur effet d'entraînement au niveau international, hein, et cette capacité à créer des coalitions, à créer des alliances et à essayer d'apporter des réponses globales aux défis globaux du 21e siècle. Et l'autre, je dirais, facette de ses efforts diplomatiques et qui répond aussi à votre question, il déploie une diplomatie flexible. Et d'ailleurs, il la décrit comme ça, c'est-à-dire il affronte la Chine, la Russie, d'autres pays sur certains sujets, et notamment la question des droits de l'homme, hein, qui est vraiment au cœur de sa politique étrangère. Et sur d'autres sujets, il coopère, il dialogue, il négocie, notamment sur les biens communs, le climat, la pandémie, mais aussi, par exemple, le contrôle des armements. Et donc, il y a sans cesse cette allée-venue, cette combinaison, cette synchronisation de fermeté et de dialogue, ce qui finalement est propre à l'art de la diplomatie. Hein. Il y a rien de nouveau. C'est juste qu'après 4 ans de Trump, on avait peut-être un peu perdu l'habitude de voir une Amérique agir de cette manière-là. Et enfin, dernière question, parce que vous avez demandé, est-ce qu'il y a une continuité aussi avec Trump? Oui, moi je trouve que à la fois, alors il y a un double avantage chez Biden, c'est qu'il a été vice-président d'Obama et qu'il veut aller plus loin et qu'il veut plus de fermeté avec les puissances rivales. Et deuxièmement, il hérite aussi des instruments de politique étrangère laissés par Trump, et notamment les sanctions et les taxes douanières. Et on voit que ce soit sur l'Iran et d'autres sujets, il surfe aussi un peu sur ces instruments coercitifs que Trump lui a laissés. Et donc, on voit dans les négociations sur le nucléaire iranien, l'Iran veut que les États-Unis lèvent des sanctions, mais Biden l'utilise aussi comme moyen de pression dans la négociation. On voit aussi par rapport à la Chine, il n'a pas levé les taxes douanières qu'avait imposées Trump à la Chine. Et tout ça, en fait, est assez intéressant à voir, puisqu'il utilise ces instruments, y compris les plus coercitifs, mis en place par Trump, pour faire peser la position américaine dans le cadre de ces négociations et de ces dialogues avec notamment des puissances rivales.
Alors la question qui se pose est de savoir si par exemple la Chine s'attendait à une levée des sanctions de la part de Joe Biden. C'est certainement le cas côté iranien, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, Pierre Mélandry, ce à quoi on va assister, et Philippe Goloub l'évoquait, ce sont deux puissances qui vont continuer et intensifier peut-être cette manière qu'ils ont de se tester en permanence. Alors, il y a un gros dossier qui pointe à l'horizon, c'est la question de Taïwan. Dans la relation entre la Chine et les États-Unis, c'est un dossier particulièrement épineux. On a vu Joe Biden critiquer la Chine pour sa politique à Hong Kong, également dans le Xinjiang avec le traitement réservé aux Ouïghours. Mais on en est là pour l'instant.
Ah oui, il est certain que la Chine est quand même le grand défi, d'ailleurs c'est dit ouvertement, pour les Américains. Et disons que ça remonte pratiquement aux années Obama avec le pivot, et que c'est évidemment Trump qui a durci brutalement la politique et posé le problème. Kissinger avait très très bien, à mon avis, résumé la question. Il disait que depuis qu'ils avaient surgi véritablement sur la scène mondiale, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis n'avaient jamais été confrontés à un adversaire véritablement à leur taille. L'URSS était certainement une très grande puissance militaire, mais n'a jamais été une grande puissance économique. Le Japon, dont on s'est méfié dans les années 80, était une grande puissance économique et technologique, mais n'a jamais eu la masse démographique ni militaire pour véritablement inquiéter les États-Unis. Avec la Chine, c'est une affaire tout à fait différente. Pour en venir évidemment à la question de Taïwan, c'est une question qui est à nouveau d'actualité dans la mesure où l'on sent bien que la Chine n'hésite plus à parler d'Amérique en déclin et qu'on redoute que, convaincue de ce qu'elle dit, elle ne mette à effet ces menaces éventuelles de reconquérir d'une façon ou d'une autre l'île par la force. Actuellement, le sujet est d'autant plus d'actualité que l'amiral Philip Davidson, qui est responsable du commandement militaire dans ces régions, a suggéré que la Chine pourrait passer à l'acte dans les 6 années à venir. D'où la question désormais posée pour les États-Unis, faut-il sortir de la formule qui jusqu'ici a en quelque sorte protégé Taïwan et permis à la politique d'une seule Chine de fonctionner entre États-Unis et Amérique, c'est celle de l'ambiguïté stratégique qui, au fond, résulte du Taiwan Act de 1979, qui dit d'un côté que tout effort pour fixer l'avenir de l'île par des moyens autres que pacifiques serait une grave source d'inquiétude pour les États-Unis, qui évidemment assure un soutien matériel et même moral des États-Unis à la Chine. On a vu l'administration Trump en particulier intensifier ouvertement et rehausser le niveau des contacts. Mais la vraie question est, est-ce que les États-Unis sont engagés officiellement ou pas à défendre l'île? La réponse jusqu'ici est non. C'est ça l'ambiguïté stratégique. En sorte que, au regard du contexte actuel, la question se pose de savoir s'il faut sortir de cette formule qui a eu le mérite, malgré tout, d'assurer pendant des décennies une relation apaisée, même si elle a été parfois scandée de crise, sur ce dossier. On sait qu'une personnalité aussi importante que Richard Haass a posé le problème en septembre dans un article pour la revue prestigieuse Foreign Affairs et s'est prononcé en faveur de la levée. Mais beaucoup de commentateurs américains sont sceptiques. Ils redoutent qu'une levée officielle de l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire l'affirmation par les États-Unis que quoi qu'il arrive, ils défendront l'intégrité territoriale de Taïwan, pourrait inciter le président Xi, qui se sentirait acculé, à passer à l'acte pour ne pas perdre la face ou, en sens inverse, inciter les autorités de l'île à proclamer l'indépendance, ce qui serait évidemment un casus belli pour Pékin. Bref, actuellement, c'est une question évidemment qui est au cœur de la diplomatie américaine et on peut penser que le président Biden cherche à trouver la formule la plus subtile qui permettrait de maintenir le statu quo et peut-être en faisant passer des avertissements en privé à la Chine, qui n'aurait pas, comment dirais-je, l'inconvénient d'être une sorte de provocation publique, ce qui serait le cas, évidemment, en cas de levée officielle de l'ambiguïté stratégique.
Pierre Mélandry, on a bien compris l'importance de la question de Taïwan dans la relation entre Pékin et Washington. Alors pour rester en Asie, on a bien remarqué que la première visite d'un chef de gouvernement avait été celle du premier ministre japonais qui s'est rendu à Washington, tout comme ça avait été le cas aussi avec Donald Trump. On voit Joe Biden avoir un souci particulier qui est celui de rassurer ses alliés en Asie dans leur appui face à la Chine.
Oui, alors pour Taïwan, pour résumer, au fond, c'est l'endroit possible où il pourrait y avoir, ce que tout le monde évidemment redoute et espère ne jamais voir se produire, un conflit armé entre les États-Unis et la Chine. Alors, pour ce qui est évidemment des efforts qui sont faits pour dissuader un tel conflit, il y a la politique d'alliance. Au fond, la politique chinoise des États-Unis a toujours procédé par trois aspects. Un, essayer l'engagement diplomatique pour éviter, mais en ce moment, c'est un raté, un rapprochement entre la Chine et la Russie. En deuxième lieu, développer les classes moyennes pour libéraliser la Chine. On voit que le succès n'a pas été au rendez-vous. Et enfin, ça a toujours été le grand pilier, c'est l'endiguement de la Chine par toutes sortes de bases et d'alliances. Et ce que l'on a vu sous Trump, c'est la relance d'un projet qui était précisément un projet japonais. C'est le projet du Quad, le Quadrilateral Dialogue, qui doit rassembler l'Inde, le Japon, bien sûr les États-Unis et l'Australie. C'est une formule qui a repris de l'élan et il est certain que le Japon est une pièce essentielle désormais pour les États-Unis, de même que la protection des États-Unis dans cette période de tension avec la Chine est un élément fondamental de la sécurité du Japon. Les Américains ont d'ailleurs redonné des assurances fermes là au Japon sur leur détermination à les défendre en cas de remise en cause par les Chinois de leur souveraineté sur telle ou telle île. Donc, on a au fond un Japon qui voit son rôle pour les États-Unis plus important que jamais, même si probablement le Japon souhaite pas être obligé de prendre parti à 100% pour les États-Unis dans la mesure où il a d'extraordinaires relations économiques avec la Chine. Et c'est peut-être là-dessus que l'on peut conclure pour le moment. Si les États-Unis ont surtout pour eux une sorte de présence militaire formidable dans la région, la Chine a toujours cherché à contrer cette puissance américaine par une expansion réussie de son influence et de sa puissance économique qui a créé de forts liens de dépendance avec tous les États de la région dont le cauchemar serait d'avoir à choisir entre les deux superpuissances.
On vous retrouve, Pierre Mélandry, avec Maud Kessar, Alexandra de Hopscheffer et Philippe Golub après le journal. À tout de suite.
Priorité santé. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les 100 jours de Joe Biden à la Maison-Blanche, regard sur la politique étrangère du président américain. Nous retrouvons nos invités par téléphone, Maud Kessar, maître de conférence des universités et directrice du domaine Espace Euro-Atlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, Alexandra de Hubschefer, politologue et directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States, Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris et en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Azur, Pierre Mélandry, historien, professeur des universités et auteur de Le siècle américain, une histoire parue aux éditions Perrin. On a beaucoup parlé de la relation Chine-États-Unis dans la première partie de l'émission. Je vous propose d'axer notre propos maintenant sur les questions européennes et de voir avec vous, Maud Kessar, Alexandra de Hubschefer, quelles sont les attentes des Européens à l'égard de l'administration Biden. On a vu les Américains être plutôt anxieux avec beaucoup de désaccords qui ont marqué leur relation avec le président Trump. De quoi s'agit-il aujourd'hui de réparer les relations transatlantiques après avoir limité les dégâts? On est dans la restauration et dans la réforme, Maud Kessar.
Alors oui, on l'évoquait, la grande ambition de Joe Biden, c'est de vouloir réformer à l'intérieur, mais réformer aussi et restaurer les alliances. Toutefois, les Européens ont été quand même largement marqués par les 4 années de l'administration Trump. Et il semblerait qu'au terme des 100 jours donc de l'administration Biden, on se dirige pas vraiment vers un chacun pour soi stratégique, avec une loyauté très marquée à l'OTAN qui a été rappelée par le candidat Biden, puis par le président Biden. Et puis par son responsable du département d'État, Anthony Blinken, tout à fait proche des Européens. Je pense qu'il y a sans doute un point sur lequel il faut insister, c'est la question russe aussi qui concerne particulièrement les Européens, ce qui est donc lié à la question de l'OTAN. Joe Biden avait rappelé durant sa campagne qu'il serait particulièrement ferme vis-à-vis de la Russie et ferme aussi sur toute la question qui touchait le flanc est de l'Europe. Il a su s'entourer aussi donc d'une équipe qui connaît bien la Russie, hein. On pense bien sûr à Richard Mills. Et puis, ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent, c'est peut-être aller à rebours un petit peu des idées reçues et de cette rhétorique de guerre froide que Joe Biden a entamée, notamment avec ce fameux entretien télévisé où il répond oui à la question « Est-ce que Vladimir Poutine est un tueur ?» Par ailleurs, donc bien sûr, il y a un durcissement de cette relation sur le plan rhétorique, mais il y a aussi, comme on l'a rappelé, sur la question asiatique, des points sur lesquels la Russie et les États-Unis peuvent dialoguer. Et dès le début de l'année, dès sa prise de mandat, même si on n'est pas dans le cadre d'un reset des années 2010-2012 comme dans le cadre de l'administration Obama, il y a quand même eu la volonté de la part de l'administration Biden de reconduire le traité New Start pour une période de 5 ans, donc fin janvier. Donc il semblerait que quand même sur les dossiers techniques et sur les dossiers notamment de la maîtrise des armements, il y ait des points de dialogue possibles entre la Russie et les États-Unis, même si il y a une position de grande fermeté de la part de l'administration Biden et de l'ensemble de ses responsables de cabinet qui sont très marqués par l'épisode donc de 2016 de l'ingérence russe et donc qui sans doute sont quand même peu enclins à favoriser un retour en grâce de la Russie auprès des États-Unis. Il y a trop de dossiers bien sûr qui divisent, mais il y a aussi quand même certains points de négociation qui pourraient être importants. Et puis il ne faut pas oublier que tout cela se déroule sous fond de renégociation du JCPOA, donc du traité sur le nucléaire iranien. Et puis, je rappelle aussi qu'au moment du reset donc de l'administration Obama, on avait aussi facilité les accords bilatéraux entre les deux États parce qu'il était question déjà du retrait américain d'Afghanistan. Point sur lequel on pourra sans doute revenir.
Alors, ingérence russe dans l'élection de 2016, également dans celle de 2020. Je me tourne vers vous, Alexandra de Hubschefer. Alors, Maud Kessar évoquait fermeté d'un côté et puis maintien du dialogue. On a vu le président américain inviter Vladimir Poutine à une rencontre possible dans les mois qui viennent. Ça pourrait se situer cet été. En tout cas, un président américain ferme avec Moscou, ça ne peut que resserrer les liens de Washington avec les Européens, Alexandra de Hubschefer.
Alors, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que Biden, quand il était vice-président de Barack Obama, avait été le principal artisan de ce fameux reset, de cette tentative malheureuse de relancer la relation entre les États-Unis et la Russie. C'était aussi lui qui était chargé du dossier ukrainien, donc il maîtrise vraiment très bien ces questions-là. Et là aussi, il tire les leçons de la présidence Obama, qui avait largement sous-estimé la menace russe. Et d'ailleurs, Obama avait dit à Poutine « tu es à la tête d'une puissance régionale ». Et ça, c'est sans doute l'une des plus grosses insultes que vous pouvez adresser au président russe, c'est de traiter la Russie de puissance régionale. Et là, effectivement, Biden, en proposant un sommet bilatéral avec Poutine, élève finalement la Russie au-delà du statut de puissance régionale, mais de puissance mondiale. Et c'est ce que Poutine attend aujourd'hui, c'est de pouvoir être considéré d'égal à égal dans ce dialogue avec les États-Unis. Donc cette proposition de Biden est plutôt très très bien accueillie. Et quant à la relation transatlantique, alors oui, il y a une volonté de restaurer la confiance, mais il y a aussi une volonté de la moderniser. Hein. C'est vraiment le leitmotiv, là aussi, dans les discussions transatlantiques que je peux animer au GMF, c'est de ne pas revenir dans les anciennes formes de coopération transatlantique où les États-Unis viendraient, diraient quelque chose et puis ensuite les Européens s'aligneraient. Au contraire, aujourd'hui, on voit de la part de Washington une vraie ouverture à précisément une Europe plus géopolitique, qui puisse être plus cohérente sur la scène internationale, notamment dans ses voisinages, le voisinage sud et le voisinage est. Ils accueillent aussi très favorablement l'implication de la France dans l'Indo-Pacifique. Donc il y a toujours cette idée, en fait, la relation transatlantique, c'est toujours des attentes croisées. Donc les États-Unis nous regardent, nous, Européens, et cherchent avant tout un partenaire avec toujours plus de capacités pour venir les appuyer sur leurs propres intérêts stratégiques. Et puis nous, Européens, on regarde vers les États-Unis pour deux choses principalement, leur garantie de sécurité. Et donc là, on a un réengagement notamment de Biden au sein de l'OTAN, l'article 5, donc cet article de la défense collective. Et on regarde aussi vers les États-Unis pour un leadership plus stable et plus prévisible. Voilà. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que Biden est en train de projeter aujourd'hui au sein de la relation transatlantique et au-delà. Mais en même temps, ce que l'on voit, c'est que l'ère Trump a laissé des traces. Les Européens, on le voit, que ce soit sur la question du climat ou même de la relation avec la Russie, sur l'Iran, la relation avec la Chine, où on souhaite aussi se distinguer de la politique américaine. On continue à affirmer aussi nos spécificités, nos divergences. Et pour moi, ça, c'est vraiment un héritage de l'ère Trump. C'est que le dialogue transatlantique ne sera jamais plus le même. Le dialogue transatlantique est devenu plus ouvert, plus franc. On dit nos désaccords, nos divergences de manière beaucoup plus ouverte. Et ce que je note quand même depuis le début de l'administration Biden, c'est qu'il considère non pas l'Europe, mais l'Union européenne, Bruxelles, comme un partenaire à part entière de la politique étrangère américaine. Et ça, c'est important. Le premier déplacement de Tony Blinken, c'était à Bruxelles. Le premier déplacement aussi de Biden, ce sera en Europe, dans un premier temps pour le G7, mais aussi à Bruxelles, ensuite pour l'OTAN et l'Union européenne. Donc, il replace véritablement Bruxelles au cœur de la politique américaine. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que justement, dans cette forme de géopolitique de l'Europe, il pousse l'Europe à jouer un rôle, par exemple, d'intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran sur le dossier iranien. Sur la question du climat, là, on peut parler d'un vrai co-leadership transatlantique sur le sujet, parce qu'il y a une vraie convergence sur les objectifs et l'importance de cet enjeu climatique. Mais en revanche, sur la Russie, comme vous le savez, la politique européenne, c'est une politique du compromis avec ceux qui souhaitent une politique ferme et d'autres, je mets la France et l'Allemagne, une politique plus tournée vers le dialogue avec la Russie. Et sur la Chine, on a des divergences avec les États-Unis aujourd'hui, où on ne souhaite pas être embarqué dans une militarisation des tensions avec la Chine, alors que Washington, le message, c'est très clair, c'est d'alerter leurs alliés européens sur les dangers aussi militaires mer, de la présence chinoise de plus en plus autour de Taïwan, de la mer de Chine du Sud. Et là, à part la France et en dehors de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, il n'y a pas beaucoup de pays en Europe aujourd'hui qui souhaitent suivre les États-Unis sur l'aspect stratégique militaire de l'Indo-Pacifique.
Alors, Alexandra Dobscheffer l'évoquait à l'instant, première visite à venir de Joe Biden à l'étranger, ce sera l'Europe, là où de mémoire, Donald Trump, lui, avait réservé sa première visite à l'Arabie saoudite. Alors, j'aimerais avoir votre avis, Philippe Golub, sur deux décisions prises récemment par Joe Biden. Il y a d'une part la reconnaissance du génocide arménien, ce qui va compliquer la relation de Washington avec Ankara, et puis la décision donc annoncée du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Est-ce que Joe Biden a raison de retirer les troupes américaines d'Afghanistan ? On peut préciser aussi qu'elles avaient été annoncées par Donald Trump et la confirmation par Joe Biden.
Oui, alors il y a évidemment là sur la question afghane comme sur la question irakienne, les États-Unis sont engagés dans des théâtres lointains, dans des opérations très longues. L'Afghanistan, c'est depuis 2001, c'est la guerre la plus longue de l'histoire américaine. Il y a au sein de l'opinion américaine une très grande fatigue, on le sait très bien, envers les aventures extérieures de différentes administrations qui ont eu des coûts très élevés à la fois humains et financiers, sans apporter des résultats probants. La direction politique américaine depuis Obama, d'ailleurs c'est encore une fois pas Trump, il y a là encore des éléments de continuité en dépit du caractère quelque peu idiosyncratique de l'administration Trump, des continuités de désengagement total ou partiel des États-Unis, des théâtres d'opérations extérieures qui représentent ces coûts pour les États-Unis en termes non seulement financiers humains, mais aussi de réputation. Donc est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort ? C'est pas à moi de juger s'il a raison, s'il a tort. Rester, pourquoi faire ? Partir, pourquoi faire ? Il n'y a pas de bonne option stratégique. Ceux qui, au Pentagone, argumentent qu'il faut laisser une présence militaire pour stabiliser le pays ne font que étendre dans le temps le problème. Le problème restera, quelle que soit la présence américaine. Si vous laissez 5 000 soldats, 10 000 soldats sur place, et ce serait 2 000 plutôt que 10 000, ça ne change rien au fond à la dynamique. Donc je crois qu'ils sont arrivés, cette administration comme les précédentes, sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait au fond rien à faire dans ce théâtre qui puisse améliorer la situation dans un sens ou dans un autre. Rester ou partir, les deux posent problème. Pour ce qui est des autres déploiements américains internationaux, les États-Unis voudraient se désencastrer quelque peu, se désengager partiellement du Moyen-Orient, dans le sens large du terme, pour la même raison, c'est que les États-Unis voudraient consacrer leurs efforts sur l'Asie-Pacifique, non pas l'Indo-Pacifique, qui est un terme géopolitique dénué de tout sens, mais sur l'Asie-Pacifique, et se concentrer sur les grands objectifs stratégiques américains d'avenir. Et là, le problème se pose, ils ne peuvent pas se désengager du Moyen-Orient, bien évidemment. Le Moyen-Orient s'invite constamment dans la politique américaine, stratégique américaine, et d'ailleurs la Chine s'invite de plus en plus dans la politique moyen-orientale, ce qui conclut que la donne, la Chine vient de signer un accord avec l'Iran, un accord stratégique sur 25 ans pour 400 milliards de dollars estimés. Et donc il y a un resserrement des liens irano-chinois, ce qui pose encore une fois un défi pour Washington de trouver une solution plus stable dans la relation avec l'Iran. Donc les États-Unis sont nécessairement pris par le monde est pris par les États-Unis. Ce sont des relations d'interdépendance compliquées où les États-Unis veulent se désengager et ne peuvent pas vraiment le faire complètement.
Alors, resserrement des liens irano-chilounois, d'où cette information qui est tombée cette semaine, Pierre Mélandry, où on voit précisément les Américains soucieux de garder l'Iran dans le jeu, d'où peut-être cette pression faite sur l'Arabie saoudite pour des entretiens secrets qui auraient eu lieu pour Bagdad en Irak. Un commentaire, Pierre Mélandry.
Oui, écoutez, là, je ne suis pas au courant de ces entretiens, mais On a dit en tout cas que ce genre de contact secret avait commencé un petit peu plus tôt, sous l'administration Trump, lorsque les Saoudiens ont commencé à s'inquiéter de la non-réponse immédiate de cette administration à la frappe dont avaient fait l'objet leurs installations pétrolières. Et il y a effectivement le sentiment qu'il faut s'accommoder d'une forme relative de retrait de la présence américaine. En tout cas, ce qui me paraît frappant, c'est que ce que démontre la question iranienne, c'est que la Chine est prête désormais à tacler partout dans le monde, et c'est ça le grand problème pour les Américains, les États-Unis. Le jeu est désormais un jeu nettement bipolaire où l'Amérique ne détient pas et de loin toutes les cartes. En tout cas, je crois que ce qui est important, même par rapport à l'Europe, ça va être la capacité ou non de cette administration à revenir dans l'accord nucléaire de 2015. C'est un accord qui finalement avait pour soutien, lorsqu'il a été conclu, toutes les agences de sécurité américaines qui considéraient que, avec limiter le terrorisme, avec assurer le flux du pétrole, empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire était la priorité absolue pour les États-Unis dans la région, celle qui pouvait justifier précisément la préservation de leur présence. Or, en sens inverse, il y avait très peu de soutien aux États-Unis en dehors des services et des agences de sécurité qui voyaient bien la nécessité de cet accord pour cette formule, parce que l'Iran est un pays qui nourrit avec les États-Unis une relation un petit peu émotionnelle. Pour les Américains, c'est un pays qui a humilié avec le renversement du Shah, qui faisait dire à Henry Kissinger que finalement, il y avait une chose pire qu'être un ennemi des États-Unis, c'est être son ami, avec la prise des otages. Tout ceci a profondément marqué l'opinion politique. Et au fond, on a vu, lorsque Obama a négocié cet accord, qu'il ne pourrait pas le faire ratifier au Congrès. C'est pourquoi c'est resté un accord au niveau de l'exécutif. Et on en avait prévenu, à partir de ce moment-là, il serait très facile, ce qui a été le cas, au président suivant, de le renverser. Et ça peut être aussi une donne dans la réflexion de l'Iran, cette capacité des Américains à pratiquer le yo-yo diplomatique. En tout cas, les principaux obstacles sont pourtant encore ailleurs, c'est dans les alliés régionaux. Alors, on verra bien pour l'Arabie saoudite ce qu'il en est, mais on sait qu'il y a un allié essentiel des États-Unis dans la région qui est hostile à 110% au retour des États-Unis dans cet accord, c'est Israël, avec comme relais ses supporters aux États-Unis, bien sûr l'AIPAC, mais aussi les chrétiens évangéliques. Alors tout ceci, évidemment, fait que l'administration Biden est dans une situation difficile. Surtout si l'on ajoute qu'il va y avoir bientôt des élections en Iran et que l'on redoute que celles-ci débouchent sur l'élection d'un président appartenant au clan des Durs. Donc c'est un véritable défi et tout ce que l'on peut dire, c'est que le bruit court que les négociations ne se passent pas si mal que cela à Vienne, même si il n'y a pas de négociation directe, mais les Européens font les intermédiaires entre les Américains et les Iraniens.
En tout cas, Pierre Mélandry le disait à l'instant, la Chine est prête à tacler les États-Unis partout dans le monde. On n'a pas encore parlé de l'Afrique. On peut souligner juste que la Chine y est de plus en plus influente. Et cette question, est-ce que Washington a laissé passer sa chance d'être plus influente en Afrique? On n'aura pas le temps d'y répondre. Et concernant Israël, ce petit rappel qui est de dire que Trump a porté l'alliance américaine israélienne à des sommets sans précédent. Qu'est-ce qu'il lancera des relations à venir entre les États-Unis et Israël? Là aussi, une autre question. En tout cas, Washington a restauré l'aide aux Palestiniens. Je crois qu'on n'a malheureusement pas le temps de redévelopper une autre question. On reparlera bien sûr des États-Unis et en fonction de l'actualité et des mesures et des annonces qui seront prises. En tout cas, merci à chacun. Pierre Mélandry, je rappelle que vous êtes historien et professeur des universités, que vous étiez avec nous en direct depuis les studios de nos confrères de France Bleu Azur, que nous remercions au passage, et que vous êtes auteur de Le siècle américain, une histoire aux éditions Perrin. Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris, et Maud Kessar, maître de conférences des universités et directrice du domaine Espace Euratlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, et Alexandra de Hopschefer, politologue et directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States. Merci à chacun. Pour aller plus loin, je rappelle le dernier numéro de la revue Diplomatie consacrée à la géopolitique des États-Unis dans un partenariat avec l'IRSEM. Également cet ouvrage, Le Moyen-Orient selon Joe Biden, sous la direction de Hasni Abidi, aux éditions Éric Bonnier. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.